Vous écoutez On lit pour vous.
Stimuler l'odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau? Un texte de Colline Zigrand et Benoît Jobin, paru le 11 mai 2026 dans La Conversation. Une simple odeur diffusée pendant le sommeil peut-elle améliorer votre odorat, votre mémoire ou même la qualité de votre sommeil? De nouvelles recherches explorent les bienfaits de la stimulation olfactive passive. Une personne sur cinq présente une perte ou une diminution de l'odorat. Celle-ci peut survenir à la suite de différentes conditions, dont une infection respiratoire, une sinusite, une infection de type COVID-19, un traumatisme crânien, une maladie neurodégénérative ou une exposition à des produits chimiques. Invisible, elle réduit fortement la qualité de vie. Les personnes touchées peuvent s'isoler par crainte de sentir mauvais, ressentir de l'anxiété, perdre l'envie de manger ou modifier leur alimentation. La sécurité quotidienne est aussi compromise, puisque détecter la fumée, le gaz ou des aliments avariés devient plus difficile. Enfin, cette perte peut nuire à certaines professions comme chef, parfumeur ou sommelier pour qui l'odorat est un véritable outil de travail. Le traitement principal de la perte olfactive consiste en un entraînement olfactif. Tous les jours, matin et soir, le protocole consiste à s'exposer à des odeurs différentes pendant environ 30 à 40 secondes par odeur. Les limites de la stimulation olfactive. Bien que les effets bénéfiques de la stimulation olfactive soient documentés par plusieurs études, le taux d'abandon est élevé. Effectivement, pour être efficace, l'entraînement olfactif requiert 2 séances par jour pendant 3 mois minimum. Cette routine répétitive est contraignante et certains abandonnent avant d'en voir les bénéfices. Pour combler cette lacune, des chercheurs ont proposé une solution simple et accessible, la stimulation olfactive passive. Elle consiste à exposer le cerveau à des odeurs variées de manière continue, même durant le sommeil. Un remodelage du cerveau. Sans effort et sans médicaments, cette pratique nocturne intrigue de plus en plus les neuroscientifiques en raison de ses bienfaits. En effet, certaines études montrent une amélioration de la mémoire, une meilleure qualité du sommeil et même des changements anatomiques au niveau cérébral. Ces effets reposent sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se remodeler en fonction des expériences et apprentissages. En sentant des odeurs, nous activons et stimulons le système limbique du cerveau, une région clé qui régule les émotions et la mémoire. Malgré un champ de recherche en pleine expansion, cette approche demeure peu connue du grand public. Ses effets bénéfiques sur le cerveau pourraient améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, d'autant plus que les plaintes de mémoire, de sommeil ou d'odorat augmentent avec l'âge. Un booster de mémoire. L'odeur d'une tarte au sucre sortant du four peut suffire à raviver un souvenir d'enfance chez grand-mère. Véritable Madeleine de Proust, ce phénomène illustre le lien intime entre l'odorat et la mémoire. Une étude publiée dans Frontier in Neuroscience a exposé un groupe d'adultes en santé âgés de 60 à 85 ans à une odeur différente chaque nuit, soit 7 odeurs en rotation sur une semaine pendant 6 mois. Leurs résultats montrent une amélioration de 226% de leur mémoire verbale comparativement à un groupe d'adultes non exposés. Au niveau cérébral, les chercheurs ont rapporté une augmentation du faisceau inciné gauche, une sorte d'autoroute de communication entre les régions du cerveau impliquées dans la mémoire et l'apprentissage. Le fait que cette structure soit positivement modifiée par la stimulation olfactive passive laisse sous-entendre que les effets ne seraient pas qu'éphémères. Ainsi, la stimulation olfactive pourrait agir comme un véritable booster pour la mémoire des personnes âgées. Cependant, bien qu'encourageant, ces résultats nécessitent d'être confirmés par d'autres études, notamment en raison de la petite taille de l'échantillon. Bienfaits sur le sommeil. Les odeurs et le sommeil sont intimement liés, et ce depuis des millénaires. Déjà, dans l'Égypte ancienne, nos ancêtres brûlaient de l'encens de myrrhe pour protéger les dormeurs des cauchemars. Aujourd'hui, la recherche suggère que la stimulation olfactive pratiquée au moment de l'endormissement et durant la nuit pourrait effectivement améliorer le sommeil. Le sommeil est crucial pour le bon fonctionnement de notre santé physique et mentale. Au sens large, le sommeil permet à notre corps de récupérer, de réguler les émotions et d'éliminer les déchets métaboliques accumulés durant la journée, ainsi que de soutenir le système immunitaire. C'est également un moment clé pour consolider les souvenirs en transformant les informations fraîchement apprises en mémoire à long terme. Or, en vieillissant, notre sommeil devient plus fragmenté, contient plus d'éveil et nous rapportons généralement un sommeil de moindre qualité. Une méta-analyse regroupant plusieurs études démontre que certaines odeurs peuvent améliorer la qualité du sommeil des personnes insomniaques. La lavande, l'écorce d'orange et la rose sont les odeurs les plus étudiées, bien que leurs effets thérapeutiques respectifs restent encore peu connus. Dans la même lignée, une étude pilote a montré que la diffusion nocturne de l'odeur de lavande pouvait améliorer à la fois le sommeil perçu et certains indices objectifs du sommeil mesurés par EEG. Comparativement à une nuit sans odeur, la nuit avec odeur de lavande était associée à un meilleur bien-être au réveil, à une diminution des perturbations du sommeil, ainsi qu'à une augmentation du sommeil lent profond N3 et de l'activité delta, un marqueur de sommeil plus profond et récupérateur. Ces résultats restent préliminaires, mais suggèrent qu'une stimulation olfactive passive durant la nuit pourrait favoriser un sommeil de meilleure qualité. Par où commencer? Pas besoin d'équipement sophistiqué pour s'initier à la stimulation olfactive passive. Voici quelques pistes. Sentir un parfum, des huiles essentielles, chaque matin ou soir, sur les vêtements. Utiliser un diffuseur ou un parfum d'ambiance dans votre pièce de vie. S'exposer à des odeurs différentes. Sentir au minimum 4 odeurs différentes, chaque type durant environ 30 secondes dans chaque narine, 2 fois par jour pendant 3 à 6 mois. Pour préparer notre corps à s'endormir, on tamise la lumière, on cherche le silence, on enfile des vêtements amples. On mobilise sans même s'en rendre compte presque tous nos sens. Alors, pourquoi ne pas y ajouter une odeur apaisante avant de fermer les yeux? C'était « Stimuler l'odorat peut-il être bénéfique pour le cerveau? » Un texte de Colline Zigrand et Benoît Jobin paru le 11 mai 2026 dans La Conversation.
Prix Action LGBTQ+, 2026, Marie-Ève Baron et la Fondation Émergence à l'honneur, un texte de Caroline Lavigne, paru le 4 juin 2026 dans le magazine Fugue. Le gouvernement du Québec a dévoilé les lauréates de la 3e édition du Prix Action LGBTQ+, la plus importante distinction gouvernementale, soulignant les réalisations qui contribuent à faire du Québec une société plus ouverte, inclusive et sécuritaire pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Lors d'une cérémonie tenue le 1er juin au Musée national des beaux-arts du Québec, la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, a remis les honneurs à Marie-Ève Baron dans la catégorie « Hommage » ainsi qu'à la Fondation Émergence dans la catégorie « Milieu de vie en confiance ». Au-delà des lauréates, cette troisième édition a également permis de mettre en lumière le travail remarquable de plusieurs acteurs et actrices qui contribuent chacun à leur façon à faire progresser les droits, la sécurité et l'inclusion des communautés LGBTQ+, partout au Québec. Marie-Ève Baron récompensée pour près de 2 décennies d'engagement. Dans la catégorie « Hommage », qui reconnaît une personne s'étant illustrée dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Marie-Ève Baron a été choisie parmi 3 candidatures d'exception. Militante trans, connue et respectée dans le milieu communautaire québécois, elle agit depuis 2008 comme porte-parole et agente de changement au sein des communautés trans. Son implication a contribué à accroître leur visibilité auprès de grandes organisations LGBTQ+, et à renforcer plusieurs organismes phares, dont Aide aux trans du Québec et Fierté Montréal. Son engagement s'est également manifesté au GRI Montréal, où elle a occupé les rôles d'intervenante, de formatrice, de coordonnatrice et d'administratrice. Elle y a notamment joué un rôle déterminant dans l'intégration des réalités trans et de la pluralité des genres au sein des activités de sensibilisation offertes dans les écoles. À elle seule, elle a participé à 65 interventions ayant rejoint plus de 1500 jeunes. Des finalistes qui font aussi avancer les communautés. La reconnaissance accordée à Marie-Ève Baron n'enlève rien au travail accompli par les 2 autres finalistes. Kim Ouimet figure parmi les voix importantes de la diversité sexuelle et de genre au Québec. Au fil des années, son implication dans différents projets communautaires et de sensibilisation a contribué à favoriser une meilleure compréhension des réalités LGBTQ+, et à créer des espaces plus inclusifs. Julie Vaillancourt, pour sa part, est reconnue pour son engagement soutenu auprès des communautés LGBTQ+, et sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des personnes de la diversité sexuelle et de genre, en particulier des lesbiennes. Son travail de sensibilisation, de mobilisation et d'accompagnement a marqué plusieurs milieux communautaires. Rappelons qu'elle collabore à Fugue depuis plus de 15 ans, entre autres en signant la chronique mensuelle « Où sont les lesbiennes ?». La Fondation Émergence poursuit son travail de pionnière. Dans la catégorie « Milieu de vie en confiance », la Fondation Émergence a remporté les honneurs grâce à plus d'un quart de siècle d'actions concrètes contre l'homophobie et la transphobie. Depuis sa création, l'organisme a développé des campagnes de sensibilisation, des outils éducatifs et des formations destinées à de nombreux secteurs de la société québécoise. Ces interventions touchent notamment les milieux de travail, les personnes aînées, les proches aidants et les réseaux institutionnels. Au cours des 5 dernières années seulement, plus de 32 000 personnes ont participé à ces formations. La Fondation s'est également distinguée par son leadership dans des dossiers comme le vieillissement LGBTQ+, et la lutte contre les thérapies de conversion. Son initiative la plus connue demeure sans doute la création de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, célébrée aujourd'hui dans plusieurs dizaines de pays. Deux organismes régionaux et communautaires parmi les finalistes. Les deux autres finalistes de la catégorie témoignent également de la vitalité du mouvement LGBTQ+ québécois. Agir Montréal, organisme de référence auprès des personnes LGBTQ+ immigrantes, réfugiées et racisées, joue un rôle essentiel dans l'accueil, l'accompagnement et l'intégration de personnes souvent confrontées à des formes multiples de discrimination. Son travail contribue à bâtir des espaces sécuritaires où les réalités de l'immigration, du refuge et de la diversité sexuelle se rencontrent. De son côté, l'association LGBTQ+ Baie des Chaleurs illustre l'importance du travail effectué en région. Active dans l'Est du Québec, l'organisation multiplie les activités de sensibilisation, de visibilité et de soutien afin de briser l'isolement des personnes LGBTQ+ et de favoriser leur pleine inclusion au sein de leur communauté. Une reconnaissance de l'engagement collectif. Lors de la remise des prix, Martine Biron a tenu à souligner l'apport de l'ensemble des finalistes et des lauréates. Par votre engagement, vous contribuez concrètement à bâtir un Québec plus inclusif, où chaque personne peut vivre pleinement son identité. Vous êtes des modèles d'action et de solidarité, a déclaré la ministre. Créée dans le cadre de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie et de lutte contre la transphobie et du plan d'action gouvernemental 2023-2028, le prix Action LGBTQ+ vise à reconnaître celles et ceux qui participent à l'avancement des droits et du mieux-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre. À travers les parcours de Marie-Ève Baron, de la Fondation Émergence et des autres finalistes, cette édition 2026 rappelle que les progrès réalisés au Québec reposent avant tout sur l'engagement constant d'organismes, de bénévoles et de militantes et militants qui œuvrent, souvent dans l'ombre, à rendre la société plus inclusive. C'était Prix Action LGBTQ+ 2026, Marie-Ève Baron et la Fondation Émergence à l'honneur, un texte de Caroline Lavigne, paru le 4 juin 2026 dans le magazine Fugue.
Ça prend du temps et de la patience pour faire un Québécois. Un texte de Jamil, qui est auteur, compositeur, interprète et conférencier. Ce texte est publié dans Le Devoir des 27 et 28 juin 2026. En sous-titre, il m'aura fallu, à moi, qui suis francophone, 15 ans pour commencer entre guillemets, à comprendre les Québécois. Le Québec m'a sauvé la vie. Pierre Falardeau avait tort parce que le monde, guillemets, sont mal montrés, fin des guillemets. Ça prend du temps, faire un Québécois. 3 points de suspension. Déraciné à 3 reprises, père musulman, mère catholique, ex-femme mormone, dans Côte-des-Neiges, à l'ombre de la croix du Mont-Royal, j'ai fait mes premiers pas au Caire, à l'ombre des pyramides. À l'âge de 5 ans, je rentrais en maternelle à l'ombre de la tour Eiffel. À l'âge de 10 ans, je pleurais toutes mes nuits les amitiés, à la vie, à la mort, déchirées sans égard, à l'ombre de l'hôtel Ritz-Carlton, celui de Casablanca, celui qui, comme le rêve américain, n'a existé qu'au cinéma. Entre la misère des bidonvilles, aux toits et aux murs de tôle ondulés, aux planchers de terre battue, et les villas aux robinets plaqués or, ce n'est pas une image, entre Mercedes et carrioles tirées par des chevaux qui écument, je trouvais refuge dans le kiff et le hashish en écoutant Crosby, Still, Nash & Young, Yes, Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Les Stones, Cat Stevens, Janis Joplin, Carole King, The Doors et autres, accroupis dans le coin d'une pièce tamisée, que ce soit celle d'un vieil immeuble usé près du stade ou une chambre d'un connard de fils à papa d'un quelconque millionnaire, ou encore celle où on partageait tout dans les bidonvilles casablancais, notre musique était la même. Presque la même qu'ici. Nous écoutions ces musiques de tout notre être pendant des heures, sans bouger. Nous rêvions d'être des hippies. Nous étions peace and love. Nous n'avions que nos rêves impossibles pour nous défendre. Des rêves improbables et, pour y croire, nous fumions sans arrêt. Dans mon cas, j'achetais 4 grammes par jour. Ça me coûtait 2 $. 2 $ pour ne plus être là, pour voyager dans ma tête en attendant de partir pour vrai. Peut-être. Le Québec m'a sauvé la vie. Comparer les douleurs est une chose indécente, car c'est vraiment là que nous sommes tous égaux. Du petit poids sous le matelas à la raclée à coups de bâton, la douleur est la même lorsqu'elle est ressentie. La mienne était affective, une quête d'amour, un mal de vivre, un besoin d'harmonie, un mal-être permanent. De passage au Québec depuis 47 ans, il m'aura fallu à moi, qui suis francophone, 15 ans pour « commencer » entre guillemets à comprendre les Québécois. Fumez ça, les amis, avant de parler d'immigration. Vous m'en donnerez des nouvelles. 15 ans pour commencer à comprendre, 40 ans pour oser me prétendre Québécois sans me sentir un imposteur. Et aujourd'hui, alors qu'environ 60% des Québécois sont nés après 1979, j'ai vécu plus longtemps que la majorité de la population en ce pays aujourd'hui. Le nationalisme, même s'il m'attire, en fin de compte, c'est une promesse de violence et de division. Triste constat. On ne peut pas demander, dans le contexte mondial où l'on a vécu grassement pendant des siècles, en appauvrissant les autres, qu'ils épousent notre mode de vie quand ils viennent ici en chercher une meilleure. Personne ne quitte son pays par plaisir. On voyage par plaisir, mais on quitte ses amis, sa ville, son quartier, sa rue, parce qu'on a mal à la vie, mal à l'amour. Ceux à qui on a tout pris réclament le droit de vivre comme chez eux, chez nous. Puisque chez eux, ce n'est plus possible. C'est là que le choc des valeurs comme violence qui s'installe. Quand Falardeau disait, citation, « Un Québécois, c'est quelqu'un qui décide de l'être », fin de citation, c'était une grande générosité et très naïf. Une générosité avec le même talon d'Achille que nos démocraties face aux extrémismes. Ça me semble inéluctable tant que nous ne ferons pas tous corps ensemble, tant que nous ne comprendrons pas que nous ne sommes qu'un. En 47 ans, ce sont d'innombrables Québécois qui m'ont appris discrètement les codes de la culture québécoise. Je n'ai pas été le meilleur élève, entre autres parce que je suis trop direct, et que j'appelle un chat un chat. je n'ai pas l'hypocrisie victorienne de la majorité des Québécois. Ici, il faut savoir lire entre les lignes. Parfois, c'est laborieux, mais en même temps, c'est aussi ce qui contribue à la douceur de vivre ici. On modère, on respire par le nez, on tolère, on laisse faire, on contourne, on évite. On évite l'affrontement, on cherche l'harmonie. Harmonisation, entre guillemets. Voilà un mot qu'on n'entend jamais en matière d'immigration. On parle d'intégration, d'assimilation, mais jamais d'harmonisation. On ne devient pas Québécois seulement en apprenant la langue, et surtout pas en apprenant deux langues en quelques mois, le français académique et le québécois, dont le poids, le sens et la portée des mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense être un exemple d'harmonisation. La preuve en est simple. Les Français trouvent que j'ai l'accent québécois. Les Québécois trouvent que j'ai l'accent français. Et les Marocains ne savent plus trop où donner de la tête face à un transfuge français d'Amérique du Nord, mais leur réflexe est l'inclusion. Quand je leur dis que je suis un enfant de l'extérieur, Oul el-Karidji, ils rétoquent « Non, non, tu es un enfant du pays. » Oul el-Bleb. Donc, en étant de nulle part, je suis finalement de partout. L'univers que je transporte est fait de ces trois mondes. Ma nourriture est un savant mélange entre pâté chinois, le couscous et le foie gras. Mon vocabulaire a trois accents. Celui du bleb, des bougnoul, celui des tripou, des bougna, et celui qui parfois fait dire que j'ai été mal montré. Entre guillemets. J'ajoute encore des mots à mon vocabulaire. Il y a trois semaines, j'ai ajouté le verbe « égalir ». Ben, c'est ça, la Saint-Jean, c'est l'occasion d'égalir le monde, de ramener dans le rang tous ceux, citation, qui ont été mal montrés. Fin de citation. Ça prend du temps et de la patience pour faire un Québécois. Trois génération peut-être? Et c'est sur cette question que Jamil termine son texte qu'il a titré « Ça prend du temps et de la patience pour faire un Québécois » publié dans Le Devoir des 27 et 28 juin 2026.